sauter du côté du soleil.
J'avais envie de vous faire ce petit cadeau ce matin. Bonjour tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous. C'est vrai que l'été est arrivé. J'allais dire tranquillement, non, assez rapidement. Pouf, il nous est tombé dessus, 28 degrés, on aime ça, on se plaint pas. En même temps, dans la colonne des plaintes, je vous avoue que depuis hier, je vais vous raconter ça, début de soirée, puis c'est vraiment ça qui m'a donné envie de vous poser une question là, qui s'en vient, bougez pas, puis je sais que vous êtes nombreux à vouloir y répondre. Hier, début de soirée, j'arrête au couche-tard de l'île des Saints. J'ai mon masque, bien sûr, parce que, à force de vous le dire, à force d'interviewer des spécialistes sur la question, j'ai compris que le port du masque en public, c'est comme pas au choix. Tu le mets, ça finit là. C'est une question de protection. Alors, grosse soirée, en tout cas, au couche-tard, c'était vers 7h, 7h30. Ça rentrait, ça sortait. Et pourtant, j'étais la seule à porter un masque, un couvre-visage. Je vous jure, la seule. Et je suis restée là 10 minutes. Juste par souci d'observation, je me suis dit, je peux pas croire ça. J'en reviens pas. Voyons le monde. Il y a quelqu'un qui va venir augmenter la statistique de gens qui portent le masque. Non. Pas une personne. Puis sincèrement, là, c'est pas que j'aime ça plus que les autres. Je trouve ça vraiment fatigant de porter un masque, je vous l'avoue, je vous l'ai déjà dit. Je trouve que c'est pas évident, ça bouge tout le temps. Dès que tu parles, à moins d'en avoir un là, qui couvre vraiment, puis qui est attaché quasiment sur tout ton casque, vraiment qui fait toute ta tête, je sais que c'est désagréable. Mais je me dis à chaque fois, moi, que mon petit masque bleu là, ou celui que j'ai fait maison, on en a fait quelques-uns à la maison, je pense toujours aux gens qui travaillent dans les services essentiels, dans les hôpitaux et qui ont des N95 toute la journée. Fait que nous, notre petite misère avec notre petite masque confection maison, là, je pense que tu sais, on devrait pas trop se plaindre. On fait pas des doubles chiffres avec un N95. Fait que bref, pour moi, c'est clair que... Puis en plus, j'ai même pas tant peur que ça d'attraper la COVID-19, même si des gens autour de moi, je vous rappelle que mon conjoint est greffé, même s'il a un très bon système immunitaire, il y a quand même ce risque-là. Bon, on veut voir nos proches. On a tous des proches vieillissants ou des gens qui ont des maladies chroniques qui nous entourent. Bref, c'est par respect pour les autres. Je me dis, c'est clair que le port du masque en public, et en particulier quand on rentre dans un magasin, une station-service, n'importe quel endroit clos, là où tu vas faire tes courses, une pharmacie, ben c'est nécessaire. Et que là, je me disais, mais voyons le monde, comment ça se fait? C'est-tu parce qu'on a dit, là, on déconfine graduellement, à partir d'aujourd'hui, là, ça déconfine solide? J'écoutais des gens, on faisait des vox pop là, dans les nouvelles, vous avez sans doute entendu les mêmes reportages que moi, les gens disaient, oh, ben là, je suis tanné. Là, je suis tanné, là, faut que là, regarde, ça va être ça. Comment ça va être ça? Ça fait 2 mois et demi là, qu'on vit une vie de schnoute, sérieusement, là, qu'on vit le calvaire, que c'est pas drôle, qu'on est confiné, qu'on peut pas sortir. Puis là, ben on est tanné, fait que ben là, on s'en fout un peu. Hey, je pense qu'on n'a pas compris le message, si c'est ça. Ça a l'air qu'il y a certains coins où on l'a compris. Ma collègue, Isabelle, habite à Vaudreuil. Elle dit, nous autres, à Vaudreuil. Et c'est corroboré par notre réceptionniste qui habite aussi dans le coin. Elle dit qu'à Vaudreuil, le monde, il porte le masque. Alors ce matin, je vais vous demander, dans votre région, comment ça se passe? Est-ce que les gens... le portent le masque quand ils vont dans des endroits publics? Êtes-vous découragé finalement par l'attitude de ceux qu'on a appelés les covidios, c'est-à-dire ceux qui veulent jamais rien savoir? Et j'ai hâte de vous entendre là-dessus. 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. J'espère qu'il y aura plein de gens des régions là, qui nous écoutent, qui vont nous appeler. Je vous présente tout de suite notre premier invité. Il est président de l'Association des microbiologistes du Québec. Je trouvais important de parler à Christian Jacob parce que comme microbiologiste, bonjour Monsieur Jacob.
Bonjour, bon matin.
Comme microbiologiste, je trouvais que c'était important de revoir les grands principes là, pour bien que tout le monde comprenne qu'est-ce que c'est que ce virus-là. Puis je sais qu'on l'a dit, mais je pense qu'il faut le redire. Comment se vit la transmission communautaire? Bref, je pense que les gens aussi auront peut-être des questions d'intérêt public et qu'on pourra sans doute les éclairer pour ceux qui comprennent peut-être pas encore comment ça fonctionne. Puis c'est correct là, de pas avoir, on n'est pas des infectiologues, personne, sauf vous. Alors, vous allez nous aider comme microbiologiste. Sur le port du masque, je commence avec le port du masque, Monsieur Jacob. Expliquez-nous jusqu'à quel point c'est important de le porter dans un lieu public.
Oui, puis c'est mélangeant. C'est intéressant de la façon que vous avez apporté le sujet. Là, il y a un peu tout là-dedans. C'est très mélangeant pour la population en général parce que aussi les experts, quand on parle à la télévision, à la radio, ben souvent on parle juste d'un petit bout de ce qui est important ou pas dans le port du masque. Puis des fois, les conclusions qu'on tire de ce petit bout-là vont être différentes, que ce soit un expert ou l'autre. Fait que souvent, on va dire que le masque n'est pas extrêmement efficace pour soi-même ou pour les autres, dépendamment du type de masque, que c'est compliqué d'en fabriquer soi-même, que les risques associés à son utilisation sont importants. Puis là, quand on parle de ça, puis moi, j'en ai parlé beaucoup de ça, le message que les gens peuvent tirer de ça, c'est « Ah, ben j'en utiliserai pas, c'est dangereux. » Mais en fait, le message qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est utile, le masque. Il faut le porter quand on est en public, quand on risque d'avoir des contacts qui sont de proximité, mais il faut faire attention. Fait qu'il y a tout le temps un « mais » là qui vient compliquer la chose, puis je pense que c'est là que ça vient mélangeant là, pour les gens en général.
Ouais, mélangeant ou comme je disais tout à l'heure, il y a bien des gens qu'on a entendus. J'imagine que vous avez entendu vous aussi les commentaires de ceux qui disent bon, là, regarde deux mois et demi, quasiment trois mois confinés, là, on est vraiment tanné là. C'est pas un masque qui va changer quelque chose.
Oui, ben en réalité. C'est un peu contre-productif parce que de faire attention, de garder nos distances, le port du masque quand on est, par exemple, dans les transports en commun ou c'est des endroits où la proximité, on n'a pas beaucoup de contrôle dessus, c'est notre clé pour pouvoir demeurer déconfiné. Si on fait pas attention, ben là, on va être encore plus tanné parce qu'il va falloir mettre remettre des mesures plus strictes en place. Donc, ça va un petit peu à l'encontre du sentiment général d'être tanné. Là, oui, on regagne une petite liberté, mais il faut quand même pas en prendre trop parce que sinon, on peut rapidement la reperdre. On sait pas ce qui nous attend. Peut-être que ça va continuer à diminuer les cas avec l'été, mais c'est tout à fait possible qu'il y ait une deuxième vague. On n'a aucune idée encore de comment va se comporter la propagation de l'infection.
Comme microbiologiste, vous vous dites ça reste encore dans le principe de la boule de cristal, c'est-à-dire on peut pas trop le savoir, on peut pas regarder ce qu'on a jusqu'à maintenant comme tendance, Christian Jacob, puis dire, bon, selon ce qu'on voit, on peut s'attendre à une deuxième vague à tel moment. À une semaine près, là.
Ben dans le fond, il y a plusieurs scénarios qui peuvent arriver. Si la température a un effet significatif sur la propagation de la maladie ou le fait que nos activités sont différentes durant l'été, ben on pourrait s'attendre qu'une deuxième vague arrive à la fin de l'automne, par exemple, à la reprise de l'école, lorsque les températures vont redescendre. Mais on sait que la COVID-19, ça existe aussi dans les pays qui ont des températures chaudes puis des beaucoup d'humidité. Par contre, souvent, on a des moins bonnes données dans ces pays-là. Fait que c'est dur de dériver des conclusions qui sont franches là, en lesquelles on pourrait avoir une très, très bonne confiance. Fait qu'on a quand même une grande part d'inconnus.
OK. Donc sur la température, M. Jacob, vous nous dites, c'est que finalement, aujourd'hui, au moment où on se parle, on ne sait pas si la COVID-19 diminue avec la température chaude.
Bien, on sait qu'en laboratoire, si on le teste à des températures plus élevées, avec des taux d'humidité plus élevés, le virus a tendance à vivre moins longtemps. Mais ça, c'est en laboratoire, contrôlé, dans des solutions salines qui sont tout le temps à 0,9% ou dans du mucus ou le virus nu sur une surface. Mais souvent, le laboratoire ne va pas se refléter à 100% dans la réalité. Ça va nous donner une petite pièce du casse-tête, puis après ça, ben il faut continuer à bâtir autour pour être capable d'avoir une vraie vision de ce qui se passe dans la réalité. Donc oui, en laboratoire, on remarque que le virus est moins résistant à des hautes températures, mais comment que ça se transmet dans la réalité, on n'est pas certain encore.
Oui, exactement. Donc là, vous dites, et là, on a aperçu il y a quelques minutes Marc Bergevin qui portait le masque avec un gros CH, du Canadien. C'est bien ça. Ça, je conseille à tous ceux qui sont des fans du Canadien de vous en patenter un. Je sais pas où il l'a trouvé. Et on a dû lui faire sur mesure, mais ça y allait bien. En avez-vous un, vous, Christian Jacob, que vous portez? Vous le portez quand, vous, le masque?
Oui, en fait, c'est assez rare que je le porte parce que je travaille beaucoup de la maison.
Ouais.
Par contre, hier, je suis allé à Montréal. Je pense que c'est ma première incursion à Montréal depuis plusieurs semaines. Puis, j'ai porté un masque. Puis, souvent, vous m'avez peut-être entendu dans les médias parler contre le port du masque, un peu pour tout ce que vous disiez au début, oui. Là, dans le sens que si on parle, ils se déplacent, qu'il faut y toucher, mm-hmm. leur placer, là, ben là, on se met en danger, nous, puis les autres autour de nous, à ce moment-là, si on est capable de garder ces distances. Fait que moi, je suis pas pour le port du masque tout le temps, mm-hmm. Même quand on est en public, là. À Montréal, oui, parce qu'à Montréal, c'est très difficile de garder ses distances en tout temps. Puis c'est pas tout le monde qui a le même niveau de conscientisation. En dehors de Montréal, ben là, c'est plus facile. Moi, je suis allé à l'épicerie ici, il y a pas si longtemps. On contrôle le nombre de personnes qui rentrent dans le bâtiment. La ventilation est plus importante. Tout le monde garde. Il y a des spots partout là, des autocollants au sol pour nous montrer les 2 mètres de distance. On se lave les mains en rentrant en sortant. Quelqu'un désinfecte le matériel avant de rentrer dans l'épicerie. Bref, tout est là. J'ai pas besoin d'avoir un masque auquel je pourrais toucher, puis après ça, toucher aux tablettes ou peu importe, puis quelqu'un d'autre passe après puis il retouche, qui créerait un risque supplémentaire. Fait que je pense qu'il y a un petit jugement à voir aussi là-dedans, mais c'est ça, dans des situations comme la densité de population de Montréal, ben là, la plupart des situations appellent au port du masque, en effet.
Et est-ce que les employés... Moi, hier, j'étais très étonnée que l'employé du couche-tard porte pas de masque.
Oui, ben les employés devraient avoir une certaine forme de protection entre eux autres, certainement, là. Mais je pense, par exemple, aux employés d'usine qui dans certains cas, doivent porter une visière, des lunettes, un masque. Et tout ça les empêche de respirer normalement. Ils vont être appelés souvent à le toucher, à le replacer, à le placer en dessous du nez parce que là, ça n'a pas d'allure. Ils ont mal à la tête parce qu'ils réussissent pas à respirer assez d'oxygène. Avec les températures chaudes qui s'en viennent, ça va être encore plus difficile.
Ouais.
Fait qu'à ce moment-là, tout ça devient un petit peu contre-productif. Si on a le port de la visière qui empêche déjà les gouttelettes soit projeté dans le visage de quelqu'un, est-ce que le masque chirurgical, qui filtre pas non plus, mais que le rôle, c'est surtout de bloquer les grosses gouttelettes, est nécessaire? Ben ça, c'est du cas par cas. Faut réfléchir, tu sais, à qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui l'est pas. Mais je pense que de base, si on est capable de porter un masque puis de faire ses fonctions comme il faut, il faudrait le faire. Là, vous le disiez tantôt, parler avec un masque, c'est pas toujours facile. Faut pas s'arrêter au premier masque qu'on porte non plus.
Mm-hmm.
Il y a plusieurs types de masques. Il y en a qui font bien certains types de visages, d'autres qui font moins bien. Fait que peut-être qu'il faut en essayer plus qu'un. Moi, j'en ai 3 ou 4 modèles à la maison. Il y en a un avec lequel je suis pas capable du tout de parler. Ben, je l'utiliserai pas. Je vais utiliser les autres parce que sinon, je vais tout le temps être en train de le replacer. Puis là, il faudrait que je me lave les mains à chaque fois que je parle à quelqu'un.
Non, effectivement.
Donc, c'est ça. Il y a un certain travail à faire là, pour s'assurer que notre équipement soit bien pour nous, là, nous protège bien.
Oui, c'est sûr. Puis là, on va revenir sur le fait qu'à partir d'aujourd'hui, on a le droit à des petits rassemblements de 10 personnes et moins. Là aussi, comment être civil, comment respecter son prochain dans un contexte comme celui-là. On va parler de transmission communautaire aussi. Et aussi, il y a des questions là, beaucoup par rapport à comment, sur les surfaces, par exemple, le contact indirect via les surfaces, les objets qu'on touche, les gens, les fameuses gouttelettes. Bref, tout ça va être abordé après la pause avec notre invité, Christian L. Jacob, et microbiologiste. Il est président de l'Association des microbiologistes du Québec. Beaucoup de gens veulent intervenir. On vous donne la parole tout de suite après ceci. Nos numéros 514-790-9850 et de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850.
Au réseau Cogeco, vous avez des questions? Isabelle a les réponses. Voici Isabelle.
Rebel, rebel.
Rebel, c'est une bonne toune, mais des rebelles, par les temps qui courent, c'est vrai qu'il y en a ici et là. On les appelait aussi les Covidios. Il paraît, Christian Jacob, que vous aviez jamais entendu ce terme de Covidio.
Non, j'ai trouvé ça bien drôle. C'est la première fois que je l'entends, en effet.
C'est vrai. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui sont aussi découragés par l'attitude de leurs concitoyens. On a Jean, d'ailleurs, qui nous appelle. Bonjour, Jean.
Bonjour, Isabelle.
Vous, c'est au Canadian Tire hein, que vous avez vu que vous êtes allé au Canadian Tire puis les gens portaient pas de masque?
Oui. Lundi dernier, j'étais allé au Canadian Tire chercher de la terre pour les tentes.
Oui.
Lorsque j'attendais à la caisse, j'ai eu le temps de compter toutes les personnes qui attendaient. Nous étions 17, puis sur 17, nous n'étions seulement que deux personnes, moi et la dame en avant, qui portaient des masques.
Ah, ouais.
Pour la distanciation, aucun problème, c'était bien respecté. Mais je peux vous dire que c'est assez inquiétant, surtout dans le monde qu'on vit présentement. Là, c'est quasiment incroyable. On dirait que le monde ne prenne pas vraiment attention, comme si c'était pas sérieux. C'est vraiment grave de regarder ça. Là. Deux personnes sur 17, là, c'est incroyable.
Oui. C'est ça. Je suis assez d'accord avec vous, Jean. J'ai l'impression qu'il y a comme un manque de prise au sérieux désormais. À partir du moment où on a parlé de déconfinement, puis je vous dirais que ça fait déjà au moins une bonne semaine, pour pas dire presque deux, qu'on en parle, puis qu'on déconfine, on a déconfiné les régions du Québec d'ailleurs. Puis là, maintenant, avec Montréal, puis aujourd'hui, 10 personnes et moins vont pouvoir se rassembler. C'est sûr qu'en fin de semaine, il va faire beau, il va y en avoir partout. Mais hier, on en parlait, avant-hier aussi, avec les auditeurs, puis il y en a beaucoup qui me disaient déjà, mes voisins, ils se sont lâchés lousse le week-end dernier. Donc, ce manque de sérieux, vous le voyez, vous aussi. Je vous avoue, je l'attribue à je sais pas quoi. L'écœurement, je comprends, mais on dirait qu'on a oublié les mesures de base.
Ben, c'est bien ce que je crois présentement. Déjà là, qu'à certains endroits, si je me trompe pas, dans certains pays, ils parlent possiblement d'une deuxième contamination. Là, je me demande si le virus n'est pas en train de faire une mutation puis de devenir plus fort, plus difficile à vaincre. C'est pas... Moi, personnellement, quand je vais dans les magasins, toujours mon masque. Mais je suis déçu de voir à quel point le monde ne prenne pas ça vraiment au sérieux.
Oui. Merci beaucoup, Jean, de votre appel. Merci bien. Nicolas, vous êtes allé chez Costco. Bonjour, Nicolas.
Oui, bonjour, Isabelle. Oui, je suis allé au Costco. Il faut semblant de prendre toutes les précautions, mais les précautions vraies, il ne les prend pas en tout. Parce que les gens, ils n'ont pas de masque, OK? Mais la chose la plus révoltante que je trouve, madame, c'est qu'un enfant de 6-7 ans qui pourrait bien marcher, et surtout avec le temps qui court avec ce virus, qu'il les font assis dans les paniers, avec les chaussures et tout ça. Et après, moi, je prends ces paniers-là pour aller mettre mes tomates, pour mettre ma salade, mes choses comme ça. J'essayais de le faire comprendre à l'assistante gérante. Il m'a dit, oh non, nous, on nettoie ça, ne vous inquiétez pas. J'ai contrôlé les gars qui ramassent les pénis dehors, là. Il les prend, puis il nettoie peut-être, pas tous.
Non, il nettoie pas le panier au complet. Non, il nettoie là
non,
où on met nos
mains. Il nettoie pas au complet, c'est
non,
pas
non,
vrai.
Tout à fait. Merci.
C'est pas vrai.
Merci, avec Nicolas. Justement, en parlant du Costco, vous avez peut-être vu, mais Costco avait dit on va imposer le port du masque à tous nos clients au Québec. Et là, finalement, ils ont décidé de reculer. Ils font juste recommander fortement aux clients de le porter dans leur magasin. Et ils s'appuient, en fait, sur les règles de la santé publique. Hein, Christian Jacob, peut-être nous parler de ça un peu. C'est sûr qu'on a beaucoup tergiversé. Là. Faut-il l'obliger, le port du masque? On a vu le docteur Arruda qui était vraiment pas enclin, comme vous nous le disiez d'ailleurs également.
Oui, exact.
Donc, est-ce que vous étiez d'avis, vous, qu'au début, c'était comme une fausse sécurité? Puis là, aujourd'hui, vous avez quand même, vous aussi, vous êtes revenu un peu sur votre décision en disant, après tout, vaut mieux le recommander fortement pour pas dire quand on rentre à Montréal dans un magasin, il faut le porter. Il y a eu une évolution quand même de la pensée par rapport au masque, là.
Ben oui et non, il y a une évolution de la pensée avec l'évolution de la situation.
Ouais.
Au début, c'est qu'on nous disait distanciation sociale, ne sortez pas, restez chez vous à moins de d'ultime besoin. Là, l'épicerie était peut-être l'exception à la règle, là. Mais dans ce contexte-là, allez pas vous mettre un masque pour vous sentir protégé, puis après ça, vous mettre en danger de façon inconsciente. Fait que c'est un petit peu ça le message. Il faut rester chez nous, il faut rester distancé. Là, à mesure qu'on retourne en société, puis qu'on retourne à une espèce de semblant de normalité, ben là, la situation change, les risques de contact de proximité augmente et donc la nécessité de porter un masque est un peu plus présente qu'elle l'était quand la règle de base c'était rester chez vous et rester distancé le plus possible.
Sur la
donc,
question,
la situation a évolué un petit peu aussi.
Oui, il y a Jean aussi qui parlait de mutation. Il a dit ce virus-là qui pourrait revenir en force, qui va peut-être muter. Qu'est-ce qu'on en sait sur ce virus, sur les coronavirus? Ils sont, ouais. sont quand même connus, hein, ces coronavirus-là, celui-là, la COVID-19. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Christian?
Il y a eu plusieurs nouvelles qui sont sorties là-dessus, là, qui étaient un petit peu déroutantes, là, dans le sens il y aurait une souche dans l'Est des États-Unis qui est différente que dans l'Ouest, qui est différente qu'en Asie ou peu importe. Le fait est que les coronavirus mutent et mutent relativement souvent. Les virus à ARN, comme le coronavirus, sont des virus qui mutent quand même relativement facilement. Par contre, les coronavirus, dans ce groupe-là, ont une tendance à muter un peu moins que les autres. Et je pense que dans le premier deux mois, là, on a dénombré une quinzaine de mutations au total sur l'ensemble du génome, ce qui est pas énorme. Puis la plupart des mutations, généralement, changent absolument rien. C'est des mutations qu'on dit qui sont silencieuses.
Ah,
dans le
okay.
sens qu'il y a une lettre qui change, mais elle change pas la fonction de la protéine pour laquelle elle code.
Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'il mute, ce virus-là,
non,
qu'il pourrait
ça.
Être plus virulent.
Exact. Puis la plupart des mutations qui arrivent mènent à un virus qui est non fonctionnel habituellement. Donc, la plupart du temps qu'il mute, ben c'est pas retenu. C'est juste quand le virus peut continuer à fonctionner que cette mutation-là est retenue. Mm-hmm. Puis de temps en temps, par chance pour le virus, ben il y a une mutation ou une accumulation de mutations qui va faire en sorte qu'il va gagner un petit avantage sur les autres. Mais généralement, cet avantage-là va l'amener à peut-être être moins virulent, à tuer sa victime moins rapidement, parce que le but du virus, en réalité, c'est de se transmettre au plus de monde possible. S'il devient beaucoup plus virulent et qu'il tue rapidement, ben c'est un peu contre-productif pour lui parce qu'il arrive à un cul-de-sac, il est plus capable de se transmettre à plein de personnes. Puis c'est pour ça un peu que la COVID-19 est si difficile à contenir, c'est que le virus est pas tant virulent que ça, dans le sens que la période d'incubation est longue. La plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques. La plupart des gens vont avoir des symptômes faibles, mais vont quand même être capables de transmettre le virus. Puis les virus, avec le temps, généralement, ils vont tendre vers ça pour être capables de se transmettre plus facilement.
Ah oui. Vous en parlez comme des êtres intelligents.
Ben non, c'est ça. Oui, habituellement, quand on en parle, on parle comme si les virus avaient une intention, mais ils n'ont aucune intention. Mm. Tout ça, c'est de la mécanique. Mm-hmm. Les virus, techniquement, c'est même pas vivant. C'est comme une machine biologique, mais qui n'a aucun métabolisme, qui n'a aucune fonction s'il n'est pas inclus dans une de nos cellules. C'est notre machinerie cellulaire qui permet au virus de se multiplier. Mais en dehors de nous, les virus font absolument rien. Là. C'est un grain de poussière, en réalité.
Ouais.
Donc, le virus en lui-même n'a aucune intention. C'est juste les forces de sélection naturelle qui font en sorte que les conditions qui sont généralement les meilleures pour qu'un virus se transmette bien, c'est qu'il ne soit pas trop virulent pour son nom.
La route la plus directe pour l'attraper?
Si on se fie aux données qu'on a, là, ça serait certainement les contacts de proximité, là, de respirer des gouttelettes qui sont émises par une autre personne. On a parlé de contacts indirects sur les surfaces. Ça aussi, ça serait une possibilité là, de transmission. En fait, c'est plus que probable, là. Mais c'est peut-être, je sais pas moi, 5-10% des infections qui seraient transmises de cette façon-là. Il y a aussi la route fécale-orale qui serait possible parce qu'on retrouve du virus qui est infectieux dans les matières fécales. Ça fait un peu comme la gastro-entérite, dans le fond, qui peut se transmettre de cette façon-là aussi. Mm-hmm. Mais on ne sait pas c'est quoi la proportion qui est due à chacune de ces manières-là de transmission là, qui serait le bon chiffre. On n'a pas un chiffre arrêté. Là.
Voilà. On va s'arrêter ici. Christian Jacob reste avec nous encore quelques minutes parce qu'on va revenir sur la transmission respiratoire quand même. Je pense qu'on peut dire que vous me direz si on peut considérer la COVID-19 comme un virus respiratoire. En tout cas, certainement que le contact aérien nous a beaucoup parlé de ces fameuses gouttelettes. J'aimerais vous entendre là-dessus. Et bien sûr, on a des commentaires de nos auditeurs 514-790-9850 pour me dire si vous êtes découragé par l'attitude des gens dans votre région qui ne respectent pas le 2 mètres de distanciation, qui ne portent pas de masque non plus quand ils rentrent dans un endroit clos, public. Vous me direz, bien sûr, c'est 1-866-790-9850 pour nous joindre de l'extérieur. Puis on aura également Steve Tremblay, qui est un spécialiste de santé et sécurité au travail, qui est toujours très bon aussi dans ses conseils. À tout de suite, tout le monde.
Au réseau Cogeco. Vous avez des choses à dire. Isabelle vous écoute. Voici Isabelle.
Il y a Nicole qui m'écrit qu'elle n'a jamais porté de masque depuis le début de la pandémie. C'est pas par manque de respect des autres ou parce que je suis ignorante, mais il faut dire que j'habite Joliette. C'est sans doute plus facile de garder une distance qu'à Montréal dans les transports en commun, par exemple. Et elle m'envoie une vidéo que j'ai pas le temps de regarder, mais de la Fondation pour la protection des libertés citoyennes. Et que j'imagine un peu le contenu, puis je comprends tout à fait là, que selon les droits et libertés de chacun, on peut pas vous tordre un bras puis vous forcer à l'avaler, votre masque, mais en même temps, justement, on l'a un peu dit, on a eu un éthicien la semaine dernière, René Villemur, qui nous le disait, ta liberté s'arrête ou commence celle de la population. Puis à partir du moment où les gens de santé publique nous disent, écoutez, c'est fortement recommandé. Quand on recommande fortement, c'est parce qu'on est comme un peu mal pris pour l'obliger. On peut pas trop aller là, mais ça, si on pouvait, on irait. Comprenez? C'est comme recommandé fortement. C'est comme, tu sais, quand tu dis à ton ado, je te recommande fortement de ne pas rentrer tard cette nuit, c'est clair que s'il rentre tard, il va se faire taper ses doigts. Comprenez le concept? En tout cas, chez nous, ça marche de même. Alors, c'est sûr que recommander fortement, puis l'histoire de brandir les libertés et droits de la personne, moi, tant qu'on ne trace pas avec mon cellulaire, je trouve que, vous savez, se faire tracer avec son cellulaire, c'est autre chose. Mais nous dire porter un masque dans les endroits publics, il y a comme quelque chose que je trouve qui est du respect. On a se joint à nous donc Steve Tremblay, il est expert en santé et sécurité au travail. Bonjour Monsieur Tremblay.
Bonjour Madame Maréchal.
Je voulais vous parler parce que j'ai vu qu'il y avait une éclosion dans un chantier du train là, du REM. Il y a donc un employé affecté par la COVID, 6 autres qui sont en isolement. Évidemment, il travaillait dans une roulotte avec 6 autres collègues, puis donc ça s'est transmis. Sur les chantiers, comment ça va là? Ça a repris depuis plus d'une semaine. Est-ce qu'on est capable de faire respecter les règles, la distanciation, le port du masque? Tout le monde s'entend pour dire que c'est pas drôle de porter un masque, on le sait, là, puis en particulier quand on travaille.
C'est pas drôle, mais on n'a pas le choix. On n'aura pas le choix, personne. Puis je peux vous dire, Isabelle, parce que je parle à plusieurs directions de CNSST un peu partout, et chaque jour, depuis une semaine, 3, 4, 5 fois par jour, ils reçoivent des appels pour dire « Wop, il y a un cas sur tel chantier. Wop, il y en a un autre sur tel chantier. » Ça commence à tousser sur les chantiers.
Ah, ouais.
Ouais.
Êtes-vous inquiet, M. Tremblay?
Ben, je l'ai dit depuis le début que le déconfinement, moi, je l'ai trouvé très rapide, malgré le fait que le trio Arruda, Legault et McCann disaient « on va reprendre ça très graduellement ». Isabelle, si on regarde entre il y a 3 semaines puis lundi le 25 mai, c'est plus graduellement. 75%, même 80% de l'économie va être réouverte. C'est très rapide. Très rapide, on n'a pas laissé le temps à la population, on n'a pas donné assez de pédagogie. La pédagogie, c'est pas juste de dire aux gens de se laver les mains, de garder 2 mètres puis de mettre un masque, là. C'est de voir toutes les mesures que les employeurs doivent prendre pour respecter les nouvelles règles de santé publique et de CNESST, comment ça va être appliqué dans les milieux de travail et comment les mesures disciplinaires vont être appliquées si ce n'est pas respecté. Puis je peux vous dire que la deuxième vague, tout le monde parle de l'automne, là. Faites-vous-en pas, on va l'avoir bien avant Québec.
Ah oui, vous êtes pas très... Ouais. Ouais.
Ah ben, on a juste à être observateur, puis faut pas... Là, on est dans une période, il faut arrêter de se compter des menteries. Il faut arrêter de mettre nos lunettes roses puis de regarder la réalité en face. Mmh. Le relâchement, Isabelle, dans la population, il s'est pas amorcé depuis 2 semaines, là. Depuis les premiers beaux rayons de soleil, depuis Pâques, je dirais, ça s'est relâché et de beaucoup. Puis on voit que la pandémie, s'étale même en dehors de Montréal, là, dans les autres régions. On parle de Saint-Hyacinthe où il y a eu des éclosions, Drummondville, Joliette. Ça s'étend un peu, là. Donc, c'est le virus, il court pas tout seul. Là. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes. Là. Il est transmis parce qu'il y a des gens qui le transmettent. Et pourquoi c'est transmis? C'est qu'on a été un petit peu moins...
Vigilant
sur les mesures, ben évidemment que oui. Mmh. C'est facile, puis je vous le dis, parce que les trois premières journées, lorsque les travailleurs reviennent au travail, tout le monde a peur, parce qu'évidemment, on a lâché les travaux dans un contexte de pandémie, puis on revient dans un contexte de pandémie. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc on est très vigilant. Mais quand la confiance s'installe, je peux vous dire, Isabelle, que les mesures, ils prennent le bord. Ouais. Le matin, à 7h30, tout le monde se tient 10 pieds de distance quand les chantiers réouvrent. Mais à 10h, quand c'est le break, là, ça se donne des grosses claques sur les épaules, ça se compte des jokes, puis c'est embarqué un par-dessus l'autre.
Ah, boy. Christian Jacob est avec nous, il est microbiologiste. J'aimerais vous entendre sur ce que vient de nous dire Steve Tremblay, là, sur les chantiers, M. Jacob, sur le fait que en santé, sécurité au travail, c'est sûr que c'est pas évident. Ce que oui, nous dit Steve Tremblay, êtes-vous d'accord en gros avec ce qu'il dit?
Oui, absolument. On a pas mal la même vision de la chose. Une des choses qui est capitale, je pense, c'est qu'il y a une personne permanente, une personne qui soit responsable de faire respecter les mesures, puis que son rôle soit clair. L'employeur a un gros rôle là-dedans. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit comme le chef d'orchestre de tout ça. En général, on a tout, puis c'est la même chose quand on fera des rassemblements dans les cours arrière chez le monde. Faut que les règles soient claires. On a tout le réflexe de se regarder un et l'autre et de faire un peu ce que l'autre va faire. Puis si celui qu'on regarde ben fait rien, ben on fera rien. S'il y a des règles claires au départ, que ben tu portes un masque ou tu as 2 mètres de distance, c'est ça, faut vivre avec. Ben là, on a déjà une meilleure chance de respecter ces règles-là, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de contrôle aucun, ben à force que la journée avance, effectivement, là, le 2 mètres, il commence à ressembler plus à un 2-3 pieds, là.
Ah oui.
Il a tout à fait raison, Isabelle. Puis vous savez quoi? Là, aujourd'hui, on peut être, à partir d'aujourd'hui, être 10 personnes.
Ouais.
Bon. Au lieu de faire ça par groupe de 10, pourquoi on n'a pas demandé aux gens, faites-le 2, 3, 4 maximum pour vous laisser le temps de vous habituer, c'est quoi le 2 mètres, puis c'est quoi les règles. Après, on pourra aller à un groupe de 10, tout ça. Le temps de créer l'habitude, mais la bonne habitude. Je suis d'accord avec votre autre invité qui dit qu'il devrait y avoir une personne attitrée par milieu de travail, pas rien que sur les chantiers, mais dans tous les milieux de travail, qui doit s'assurer que ces mesures-là soient respectées, puis de pas avoir peur de mettre ses culottes pour appliquer les mesures disciplinaires, parce que oui, il y a des bons employeurs qui prennent les mesures, mais oui, il y a des cabochons de travailleurs qui s'en foutent des règles. Puis ça va toujours exister, puis encore plus important de faire respecter ces mesures-là quand on est dans un contexte de pandémie. Il s'agit qu'il y en ait un seul qui s'en fout des règles. Il va vous faire naître une belle éclosion s'il se ramasse dans un parc et il ne respecte pas les mesures dans votre milieu de travail. Soyez certain de ça. Puis c'est ce qu'on voit actuellement.
Mais là, vous parlez du travail, Steve Tremblay, mais qu'en est-il là, du barbecue en fin de semaine? Là? Hein?
C'est une très mauvaise idée. Oui, le beau temps est là.
Là, ça prend-tu un beau-frère qui fasse la police?
Les premiers moments, là, je vous le dis, tout le monde va se tenir loin. Mais là, au fur et à mesure
pas
que l'alcool...
De ça,
va...
moi.
Les premiers temps, là, mettons la première heure, Isabelle, c'est ça qui va arriver. Tout le monde va se tenir à distance, tout le monde va être respecté. Mais quand on a pris un verre ou deux de vin, puis que là, la soirée avance, la musique est un peu trop forte, on s'entend pas parler, on va se rapprocher, vous allez voir que les fins de soirée ne seront pas celles du début de soirée.
Ah ouais. À jeun, t'es à 2 mètres, mais avec une petite bière ou deux. Ah
t'es
ouais.
Embarqué un par-dessus
oh,
l'autre.
Oh mon Dieu. Hey, ça va être beau le party en fin de semaine. Non, mais on rit, mais, là, mais c'est pas drôle.
On rit, mais Isabelle, surveillez bien le portrait du Québec dans les 21 prochains jours, vous allez voir. C'est là qu'on va s'en rendre compte.
Êtes-vous d'accord, Christian Jacob?
Ben oui, dans le sens que ça va prendre 2 ou 3 semaines avant de se rendre compte de l'effet du relâchement qu'on aura aujourd'hui. Puis un peu comme on parlait pour les employeurs, là, je pense que l'autre, celui qui reçoit les gens chez lui, a une responsabilité. On veut pas que la personne qui fasse le moins attention puis qui parle le plus fort soit la personne qui influence les autres à prendre ou ne pas prendre des mesures. Je pense que la personne qui reçoit chez lui doit informer les personnes qui vont venir chez lui du fait que je vous invite, ça va se passer de telle façon. Faut aussi qu'on permette aux gens d'être capables d'avoir accès à un évier pour se laver les mains. Faut penser à tout ce beau monde-là doit aller à la salle de bain. Comment que ça va fonctionner? Fait que c'est pas juste j'appelle tout le monde puis venez chez nous. Faut réfléchir un peu aussi si notre cour fait 30 mètres carrés, ben c'est pas vrai que tu peux avoir 10 personnes dans ta cour. Faut que tu fonctionnes avec la réalité de l'environnement dans lequel ces gens-là vont arriver. Puis c'est vrai qu'au début, comme le disait M. Tremblay, c'est peut-être mieux d'avoir 3-4 personnes plutôt que 10. Là. C'est peut-être plus facile à gérer. Ouais,
oui, mais... puis le temps, Isabelle, de créer cette pédagogie-là qui est nécessaire dans le sens que vous allez voir que gérer 10 personnes, s'il y a 2-3 flots là-dedans qui courent partout qui sont contents de se retrouver, ça va être bien difficile de respecter ça. Puis en plus, c'est pas de voir 10 personnes aujourd'hui, puis demain, c'est un autre groupe de 10. Puis dimanche, un autre groupe de 10.
Je pense que ça va être ça, là. Tout le monde a compris le concept. Ouais, c'est ça que ça va être. Ouais,
non, mais le concept, Isabelle, c'est que ce soit toujours le même groupe de 10. Pourquoi? Parce que s'il y a une éclosion dans votre famille, là, il faut retracer tous les contacts que vous avez eus pour pouvoir leur dire de se mettre en quarantaine, eux autres aussi. Mm. Mais si vous en avez eu 30 différents dans vos 3 jours, là, c'est plus le même problème que vous avez là.
Ouais. Je voulais juste, en terminant, parce que je sais que Christian Jacob doit nous quitter, mais on parlait de la transmission communautaire, du fait que ce virus se donnait aussi, vous nous l'avez dit, et bien sûr par les surfaces, même si sur la transmission par contact, vous-même, je pense que vous dites que vous lavez pas votre épicerie, Christian, puis bon, vous lavez pas forcément votre linge quand vous arrivez à la maison.
Non, ben c'est ça. L'épicerie, il faut quand même y faire attention. Là. C'est vrai que je lave pas chaque item en rentrant à la maison, mais quand je le range après, ben je vais me laver les mains.
Puis oui,
après ça,
d'accord.
Les items qui sont là vont rester là plusieurs heures, voire plusieurs jours avant qu'ils soient utilisés. Puis le virus a le temps de se désactiver dans une très, très large concentration. C'est vrai que sur certaines surfaces, le virus peut vivre 3 jours, mais c'est une infime quantité qui reste après 3 jours. Là. C'est vrai qu'après 3 jours, on touche à une canne puis qu'on une canne de métal puis qu'on va s'infecter. Là.
Ouais.
Mais ben oui, monsieur Tremblay.
Mais
Christian, prenez donc le temps de laver votre épicerie au lieu de le laisser traîner 3 jours. Lavez-les, serrez-les. Ça, vous n'y penserez plus, ça va être fait, ça va être réglé. Ça prend une demi-heure à faire ça, puis c'est fait. Vous êtes correct pour 15 jours.
Vous dites, il faut tout laver, vous dites.
Ah oui, moi je le fais depuis le début.
Ouais.
Quand j'arrive chez nous, Isabelle, j'ai comme un sas là, entre les deux portes. Là. Je me déshabille là complètement. Je fous ça dans la laveuse, je vais prendre ma douche tout de suite après.
Ah oui.
Si je rentre à une épicerie, je dis au livreur, tu le ça, sa galerie, là. Mm. Prends ton 10$ de pourboire, puis va-t'en.
Mais vous laissez après, pas ça là pendant de.
Je rentre sac par sac, j'ai 1 litre d'eau, 2 cuillères à soupe d'eau de Javel avec un linge et j'essuie article par article. Eh après, je le sers.
Et Christian, vous, comme microbiologiste, vous dites ça, c'est peut-être un petit peu too much?
Ben c'est pas une mauvaise mesure. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans des chantiers de décontamination pour l'amiante ou la moisissure ou ces choses-là. C'est des procédures qui fonctionnent. Ça diminue le risque, c'est sûr.
Ouais.
Est-ce que ça a un effet significatif? On le sait pas. Peut-être que le futur dira que c'est moi qui ai tort, mais c'est juste que je me dis dans un contexte de vie normale, je suis pas sûr que tout le monde va faire ça. Je préfère qu'on se concentre sur des choses qui ont une efficacité peut-être plus importante, mais si vous le faites, continuez à le faire. C'est pas mauvais de le faire.
D'accord. 10 secondes pour me dire, est-ce que le virus peut se transmettre dans l'eau de nos piscines? Parce que tout à l'heure, vers 11h05, on va parler de la situation des piscines au Québec.
Ouais, non, le virus vit très mal dans l'eau, surtout dans l'eau chlorée. L'eau de la piscine en tant que telle n'est pas un vecteur qu'on s'attend qu'il soit important. Par contre, les gens qui sont dedans, si on se lance de l'eau puis qu'on est à proximité un de l'autre, ben là, oui, par les gouttelettes là, comme quand on marche côte à côte dans la rue, oui, ça représente un risque. Mais la piscine en tant que telle ne représente pas un vecteur supplémentaire là, pour la transmission de la maladie.
Ben, on aura sans doute l'occasion de se reparler dans le courant de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Christian L. Jacob, microbiologiste. Il est président de l'Association des microbiologistes du Québec. Merci de nous avoir donné ces précieuses minutes. Merci beaucoup, Steve Tremblay, expert en sécurité, santé et sécurité au travail. Merci bien.
Bonne journée.
Merci à vous deux. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je peux parler à l'ancien maire de Saguenay, Jean Tremblay, parce qu'on voulait savoir dans cette région-là, les autres régions du Québec, comment ça se passe. Est-ce que les gens font attention, portent le masque, sont à 2 mètres? Bref, est-ce qu'il y a des parties qui s'en viennent? Il nous reste encore quelques minutes pour parler de ce sujet et on prendra vos commentaires au 514-790-9850.
Au réseau Cogeco, vous avez des opinions. Isabelle veut les entendre. Voici Isabelle.
C'est quasiment amusant. J'ai plein de gens qui m'écrivent pour dire qu'ils sont tannés, qu'on juge tous ceux qui portent pas le masque. Il y a plein de gens qui disent effectivement qu'ils ont toutes sortes de contre-indications au port du masque. Là. Soit ils étouffent avec le masque parce qu'ils ont un choc post-traumatique, puis on respecte ça aussi. Là. C'est vrai que ça, c'est possible. Le discours qu'on a ce matin, c'est dans la mesure du possible. Ben, portez-le si vous allez dans un endroit clos et public avec le 2 mètres de distance. C'est ça le message. Mais hier, j'ai vu 4-5 gars sortir de la même voiture, aller chercher des caisses de bière au couche-tard. Sincèrement, ils venaient, puis c'était pas 5 frères, puis ils s'en allaient clairement dans un party. Je sais pas si ça se passe comme ça à Saguenay. Allons voir l'ex-maire de Saguenay, Jean Tremblay. Bonjour, M. Tremblay.
Oui, bonjour.
Êtes-vous découragé par l'attitude de ceux qu'on a appelés, bien gentiment, les COVIDios?
Moi, là, je vais vous dire, j'écoute ça, là. Puis c'est, je sais pas pourquoi, mais c'est pas comme ça ici. Je savais que j'allais passer à votre émission ce matin. Alors, j'ai pris le temps d'appeler des gens, parce que je sors pas tant que ça, là.
Oui.
J'ai pris le temps d'appeler des gens, des joueurs de golf, des travailleurs, des amis partout. Puis je leur ai demandé leur impression. Puis ces gens-là, là, ils avaient tous un peu la même impression. C'est que oui, on respecte pas mal les consignes. Faut dire une chose, par exemple. C'est beaucoup plus facile, là. Les parcs ici, il y en a beaucoup, puis ils sont jamais achalandés comme ceux de Montréal. Donc, c'est plus facile, mais il y a quand même un respect, puis ils prennent ça au sérieux, je pense. C'est drôle à dire, mais je pense qu'ils prennent ça plus au sérieux que Montréal. C'est beau ce que je ferais, moi, si j'étais premier ministre, puis je voulais faire de la publicité.
Mm-hmm.
Je ferais passer des vidéos où, au lieu de faire de la publicité, là, où viennent des témoignages de gens qui l'ont eu, parce que j'ai le temps, là, j'en ai lu beaucoup. Il paraît que ça frappe comme un coup de marteau.
Mm-hmm.
Écoute, il en meurt, là, ça... Mais on le réalise pas, puis on l'oublie. Mais quand tu lis ça, là, moi, je vous le dis, là, ça me donne le goût de rester chez nous. Parce que je me dis, hey, c'est sérieux, là, écoute.
Ben, c'est tellement sérieux qu'il y a une phrase aujourd'hui dans le journal qui frappe, où on dit que le virus est maintenant la première cause hebdomadaire de décès au Québec. Donc, au cours des 2 derniers mois, la COVID-19 a tué plus que les cancers. Évidemment, le cancer reste la première cause de mortalité, mais si on prend là, les dernières semaines, en termes de causes par semaine de décès au Québec, c'est la COVID-19 qui a tué plus que le font les cancers. Donc ça, ça nous frappe, ça, quand on entend ça. Là.
Oui, puis il y en a la plupart survivent, mais l'aspect sur lequel on n'insiste pas assez, c'est pas une mort douce, là. C'est une mort... Ils souffrent, ces gens-là. Ouais. C'est très souffrant.
Alors, vous, il y a des amis, je pense, M. Tremblay, qui voulaient venir vous visiter cette semaine, puis vous n'étiez pas très à l'aise avec ça?
Non, j'ai des amis. Ils sont venus, effectivement, ils sont arrivés. Bon, là, on s'est pris des chaises, puis on s'est éloignés sur le terrain. Puis je leur ai laissé sous-entendre que, gentiment, c'est sûr qu'avec des amis, tu peux pas dire « va-t'en chez vous » tout de suite de même, là. Mais j'ai prévu, là, parce que je veux pas qu'ils reviennent, là. J'ai dit non, je suis pas à l'aise. Puis ouais. J'ai un conseil d'administration à Québec. Le 8 juin, j'ai dit que j'y allais pas. Aujourd'hui, j'ai une réunion d'affaires avec des amis, puis à fond, la réunion.
C'est ça. On peut zoomer. Hey, merci beaucoup, Jean Tremblay. On voulait juste prendre un petit peu des nouvelles des gens, de vos nouvelles et des gens du coin. Merci. On va parler des piscines en deuxième heure. Restez là, tout le monde.